Alors, le titre que j'avais donné primitivement, c'était « Attendre l'Apocalypse » ou « Dès maintenant, discerner les signes des temps, la venue de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est déjà présent ». Alors, le père Jean-Marc a supprimé la première partie, « Attendre l'Apocalypse » et a gardé la deuxième, « Discerner les signes des temps ». Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, vous le savez bien, c'est qu'on pourrait attendre l'Apocalypse de façon un peu mythique et passive, alors qu'en fait, les signes des temps sont déjà présents. Et comme le dit un article qui vient de paraître dans la revue Christus, que j'ai reçu hier, de Christophe Théobald, « Le temps de la fin est pour maintenant ». Voilà. Ce n'est pas dans le futur seulement. Alors, mon message est simple. Je dirais que, premièrement, l'Apocalypse de Jésus-Christ, il ne faut pas oublier le mot « de Jésus-Christ », est une bonne nouvelle, une heureuse nouvelle, comme le dit saint Jean au début de son livre. Et deuxièmement, elle est déjà pour maintenant. Alors, comment définir le genre apocalyptique qu'on rencontre dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament? Ce sera mon introduction. Ce genre ne s'identifie pas tout à fait au genre législatif, la loi, prophétique, les prophètes, ou sapientiel, le livre de la sagesse. Il est plutôt à la jointure de ces trois écritures, et il les conduit à leur terme. Le terme qu'elle vise sans pouvoir l'atteindre. Voilà. Et voilà de façon générale une définition du genre apocalyptique. Et de façon plus particulière, si nous considérons le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse selon saint Jean, qui est donc fait partie du Nouveau Testament, mais sans racine dans l'Ancien, on peut dire que le genre apocalyptique a pour sujet la révélation. Vous savez bien que c'est la traduction française du mot apocalypsis, la révélation du dessein éternel de notre Dieu, créateur, créateur de tout l'univers, et comment ce dessein s'accomplit et s'accomplira dans les derniers temps. Car le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, comme dit saint Jean, il est l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est le créateur. L'oméga, c'est la fin des temps. Mais la fin, ce n'est pas seulement un terme, c'est le but accompli. Mais nous sommes entre l'alpha et l'oméga. Voilà. Et cette révélation, il l'a donnée à son fils Jésus. Oui, j'étais assez étonné quand on regarde de près le texte même de saint Jean, de l'Apocalypse. Voici ce qu'il dit. Révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire Apocalypse de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Donc le premier révélateur, c'est Jésus. Voilà. C'est Jésus qui est à la fois le sujet et l'objet de la révélation. Et c'est son Père, notre Père, qu'il a lui donné pour qu'il la donne à son tour, par l'intermédiaire de l'ange, à son serviteur Jean. Voilà. Donc c'est vraiment une révélation de Jésus-Christ. Elle vient de lui, elle le concerne. Voilà. Donc saint Jean va commencer son livre en disant « La révélation de Jésus-Christ ». Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et il la fit connaître en envoyant son ange à Jean, son serviteur. Il y a presque toujours un ange dans les apocalypses. Il y a toujours un intermédiaire, un envoyé, un messager. Dans le livre de Daniel, par exemple, cet ange s'appelle Gabriel. Ici, je ne crois pas qu'il ait de nom. On voit bien l'ange Michel qui combat dans le ciel contre le dragon. Mais c'est l'ange du Seigneur, voilà. Et Jean, le serviteur, atteste ce qu'il a vu comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Heureux. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Contrairement au langage ordinaire, où l'Apocalypse en général s'est pris en un sens tragique, dramatique, catastrophique, les cataclysmes dont mes prédécesseurs ont dû vous parler peut-être un peu. Oui. Apocalypse Now, hein, le film des Américains sur, je crois, la guerre du Vietnam. Voilà. Or, c'est l'Apocalypse de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. Et je crois que c'est le fil rouge de mon exposé. C'est vraiment une bonne nouvelle, à condition de bien entendre ce qui est dit. Et nous essaierons de bien entendre. Au fond, c'est une bonne nouvelle, mais elle passe bien sûr par des douleurs, les douleurs de l'enfantement. Alors bien sûr, on ne peut pas écarter ces signes avant-coureurs, mais ils ne sont pas plus tragiques, au contraire, ils sont joyeux, pas plus tragiques que les douleurs de la femme qui enfante, comme le dit Jésus à la veille de sa passion. Lorsque la femme enfante, dit Jésus, au chapitre 16 de l'Évangile selon saint Jean, elle est dans l'affliction puisque son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de son accablement. Elle est toute à la joie d'avoir mis un homme au monde. C'est ainsi que vous êtes maintenant dans l'affliction, dit Jésus à ses disciples, mais je vous verrai à nouveau. Votre cœur alors se réjouira et cette joie, nul ne pourra vous la ravir. Donc l'Apocalypse est un genre assez particulier, où c'est vrai qu'il y a ce passage par la douleur, mais c'est une douleur qui va vers la vie et non pas vers la mort, alors que souvent on ne retient que l'aspect catastrophique, effrayant, terrifiant de l'Apocalypse. Mais c'est pas ça. Donc voilà pour l'introduction. Premier point, quelle est la structure et le message du genre apocalyptique? Car il y a un genre apocalyptique, c'est pas seulement l'Apocalypse, de saint Jean ou d'Isaïe, il y a un genre apocalyptique particulier qui est ni la loi, ni la sagesse, ni les prophètes, mais l'unité des trois et qui concerne la fin. Alors je retiendrai trois des principaux représentants de ce genre apocalyptique, deux dans l'Ancien Testament, ou le Premier Testament, comme on dit, et un dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, Jérémie, Daniel, et dans le Nouveau Testament, Jean, l'évangéliste. Alors Jérémie, on ne le prend pas souvent pour un apocalypticien, c'est un prophète d'abord, c'est vrai, mais il a des passages qui sont apocalyptiques, puisqu'il se tient sur un seuil critique. Tous les auteurs des Apocalypses se tiennent sur un seuil critique, un temps de crise. Et ils vont utiliser le langage de l'événement passé, qui s'est bien terminé grâce à Dieu, par exemple l'Exode, c'est un peu l'archétype, hein, pour annoncer un dénouement du même genre. Mais ils se tiennent entre les deux, ils sont sur un seuil critique. Donc Jérémie, eh bien, il est au moment de la déportation à Babylone, enfin un peu avant, il l'annonce, et on le prend pour un prophète de malheur. Hein. Il annonce, c'est trop tard, l'exil à Babylone. Mais en même temps, il va dire... L'histoire ne s'arrête pas là. De même que le Seigneur a délivré son peuple de l'esclavage d'Égypte en le faisant passer à travers la mer Rouge et en l'amenant à la terre promise, eh bien, de même, le Seigneur, au bout de 70 semaines d'années, 70 ans, va vous ramener dans votre pays. Donc le dernier mot, ce n'est pas la déportation, ce n'est pas l'exil. Ça passe par les douleurs de l'exil. Et Dieu sait si ça a été une douleur épouvantable, l'exil, la déportation. Comme si Dieu avait abandonné son peuple. Mais consolez mon peuple, dit le prophète Isaïe. Et Jérémie dit ceci, c'est au chapitre 25 de Jérémie. Mais quand seront accomplis les 70 ans, je visiterai le roi de Babylone et cette nation, oracle du Seigneur, à cause de leurs crimes, ainsi que le pays des Chaldéens. Pour en faire une solitude éternelle. J'amènerai donc contre ce pays toutes les paroles que j'ai prononcées contre lui, tout ce qui est écrit dans ce livre. Donc, vous voyez que Jérémie, il révèle, Apocalypse, l'issue heureuse de ce temps de l'exil dû à l'infidélité d'Israël. Le prophète Isaïe l'avait dit, si vous ne tenez pas à moi, vous ne tiendrez pas. C'est le verbe amen, hein, comme l'enfant tient bien dans les bras de sa mère. Voilà. Ils n'ont pas tenu, ils ont été mangés par un plus gros, parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu était leur force. Mais Jérémie va en faire le message de la nouvelle alliance, en prenant pour modèle l'ancienne alliance, mais qui est rompue, la sortie d'Égypte, et Dieu, qui a de la suite dans les idées, va faire une nouvelle alliance. Voici venir des jours, dit le prophète Jérémie, où je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je l'ai pris par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Cette alliance, bonne alliance, ils l'ont rompue. Alors moi, je leur fis sentir ma maîtrise, oracle du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au fond de leur cœur et je l'écrirai sur leur cœur. Ainsi, je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à s'instruire mutuellement en se disant l'un à l'autre, « Ayez la connaissance du Seigneur. » Mais ils me connaîtront tous, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. Donc Jérémie, vous voyez, c'est celui, on l'appelle souvent les Jérémiades, le prophète de malheur, mais non, il avait raison. Les prophètes disaient, mais non, Jérémie se trompe, c'est pas vrai. C'est vrai que la déportation a eu lieu, l'exil, mais ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Hein. C'est l'avant-dernier. On pourrait dire que tous les cataclysmes dont on parle sont l'avant-dernier de mots de la révélation finale, mais ce n'est pas le dernier mot. Voici ce que dit aussi Jérémie dans le livret des exilés. Les exilés sont partis à Babylone. Il leur dit, eh bien, voilà, c'était la volonté de Dieu. Eh bien, essayez de bien vivre au milieu des Babyloniens. Voici ce qu'il dit au chapitre 29. « Je sais, moi, le dessein que je forme pour vous, oracle du Seigneur, dessein de paix et non pas de malheur, qui vous réserve un avenir plein d'espérance. » C'est peut-être une parole qu'on pourrait redire à certaines circonstances difficiles de nos vies ou au cours de deuil. Hein. La parole de Dieu, son dernier mot, n'est pas un mot d'affliction, même si ça passe par les douleurs de l'enfantement, mais un mot d'espérance. Voilà pour Jérémie. Daniel, lui. Alors Daniel, il a pris ce nom à partir d'un personnage plus ou moins fictif. Daniel, vous rappelez Daniel, le cantique des trois enfants à Babylone. Ils vont être mis dans la fosse aux lions, par exemple. Ils vont chanter dans la fosse aux lions. Et Daniel va résoudre les énigmes du roi. Donc Daniel, en déportation, avec ses camarades, eh bien, sont une figure bien connue d'Israël. Mais c'est du temps de Nabucodonosor. Or, le prophète, qui prend le nom de Daniel, en fait, il vit deux siècles avant Jésus-Christ. Au temps des Grecs, cette fois-ci. Ce n'est plus les Assyriens, comme du temps d'Isaïe. Ce n'est plus les Babyloniens ou les Chaldéens. Ce sont les Grecs qui, maintenant, menacent Israël et veulent faire d'Israël une abomination, c'est-à-dire helléniser le peuple de Dieu. C'est les conquérants. Ils se partagent l'empire d'Alexandre le Grand. Ils se battent pour être... Et alors, Antiochus Épiphane, en l'an 164, ce misérable, dit un texte, eh bien, ce misérable va consacrer l'autel du temple à Jérusalem, l'autel du seul Dieu, du vrai Dieu, à Jupiter olympien, Zeus olympien. Donc, c'est l'abomination de la désolation. Et les Maccabées vont justement réagir contre cette hellénisation terrible. Israël aurait pu disparaître du temps d'Antiochus Épiphane. Eh bien, le prophète Daniel, justement, lui aussi, va annoncer la fin de ce temps épouvantable où Israël risque sa vie. Et vous voyez que c'est encore un ange, c'est l'ange Gabriel qui va lui parler. Je parlais encore en prière quand Gabriel, l'être que j'avais vu en vision au début, fondit sur moi en plein vol à l'heure de l'oblation du soir. Il me dit, Daniel, me voici. Je suis sorti pour venir t'instruire dans l'intelligence. Dès le début de ta supplique, une parole a été émise et je suis venu te l'annoncer. Tu es l'homme des prédilections. Pénètre ta parole, comprends la vision. Alors la vision, qu'est-ce que c'est? Sont assignées 70 semaines, 70 semaines, pour ton peuple et ta ville sainte, pour mettre un terme à la transgression, pour apposer les scellés des péchés, pour expier l'iniquité, pour introduire éternelle justice et pour sceller vision et prophétie. » Autrement dit, que dit le prophète qui a pris le nom de Daniel, mais il ne s'appelle pas Daniel. Il est 2 siècles avant Jésus-Christ, c'est assez tardif. Eh bien, il dit que l'abomination de la désolation, c'est-à-dire cette volonté d'Antiochus Épiphane d'anéantir le peuple en l'hellénisant, va prendre fin, et il le fait en reprenant la prophétie de Jérémie par rapport à Babylone, 70 ans. En général, l'Apocalypse aime bien compter. On le verra d'ailleurs dans l'Apocalypse aussi. Ils aiment bien compter. Et en gros, on ne peut pas dire que ça soit faux, parce que Jérémie, c'est à peu près le temps que le peuple a mis pour sortir de déportation. Alors Daniel, au fond, il emploie un langage crypté. C'est un peu comme si pendant la guerre de 39, 40, 45, eh bien, les Français qui étaient à Londres, ils envoyaient des messages cryptés pour que l'occupant ne comprenne pas. Eh bien, c'est un peu ça. Daniel parle au temps d'Antiochus Épiphane, mais pour ne pas se faire comprendre des occupants qui veulent détruire Israël, il emploie un langage crypté en se faisant passer pour Daniel au temps de Nabucodonosor. Mais en fait, ce n'est plus Nabucodonosor, c'est Antiochus Épiphane. Ce sont les Grecs et non plus les Babyloniens. Donc l'apocalyptique a un langage codé, crypté. Pas simple. Voilà. Seuls comprennent ce qu'ils désirent comprendre, nous, lecteurs, dans la mesure où nous croyons que l'Apocalypse, c'est avant tout l'Apocalypse de Jésus-Christ qui donne la clé de toutes les Apocalypses. Alors Jean maintenant, donc nous avons vu Jérémie, Daniel, Jean, l'évangéliste, l'aigle, celui qui a écrit, ou du moins son école, le 4e évangile, et qui a eu sa vision à Patmos, celui qui voyait plus loin que les autres, l'aigle, celui qui courait plus vite que Pierre, le disciple bien-aimé. Alors cette fois-ci, ce n'est plus Babylone, ce ne sont plus les Grecs, mais ce sont les Romains. Les Romains qui prennent la suite de Babylone, c'est la nouvelle Babylone, au fond, Rome. La bête aux 7 têtes, on le verra dans la tapisserie que nous allons projeter tout à l'heure, la tapisserie d'Angers, la bête aux 7 têtes, qui veut posséder l'univers, et même être adoré, comme l'empereur romain voulait être adoré. Alors il y a peut-être une allusion aux 7 collines de Rome. C'est du temps de Néron, par exemple. C'est du temps des martyrs. Combien de martyrs, premiers chrétiens, à ce moment-là? Et Jean se tient, justement, lui aussi, sur un seuil critique. C'est un point commun à tous ceux qui font des apocalypses. Jérémie, seuil critique. Il va employer le langage passé de l'Exode pour annoncer la fin heureuse. Daniel, un seuil critique, les Grecs, et Jean, un seuil critique, Rome, l'Empire romain, qui veut anéantir Israël. Le message de Jean dans l'Apocalypse est extrêmement, à la fois simple et très compliqué, finalement. Quand on voit cette luxuriance d'images, c'est fantastique. Mais au fond, ce qu'il veut nous dire, c'est que, là aussi, le temps de Rome finira, un fils d'homme viendra, déjà Daniel l'annonçait, les royaumes sont des colosses aux pieds d'argile, Dieu est plus fort, il sera victorieux et il est déjà victorieux. Les témoins seront mis à mort et ils ont déjà été mis à mort. On verra dans la tapisserie Moïse et Élie, qui avaient la puissance du ciel pour ouvrir le ciel, la pluie, etc., qui vont mourir, mais de nouveau ressuscités. Et surtout, le témoin fidèle, l'agneau égorgé, qui est aussi le lion de Juda. Jésus, il est à la fois le lion de Juda, le rejeton de David, le roi, donc la puissance du roi, et en même temps la faiblesse de l'agneau, la douceur de l'agneau égorgé, mais debout. Bien, le message de Saint Jean, au fond, il est simple de ce point de vue-là, c'est que la victoire appartient à Dieu à travers, là aussi, l'épreuve de la douleur, de la passion et du combat spirituel entre Babylone et Jérusalem. Ici, entre Rome et les premiers chrétiens. Babylone, la cité qui veut monter jusqu'au ciel. Babel, la tour de Babel. Babel, Babylone. Et Jérusalem, la cité qui descend du ciel comme une épouse parée pour son époux. L'une veut monter, se faire comme Dieu. Et pour faire une tour, il faut quand même avoir des ouvriers et les exploiter un peu. Une seule langue, pour être plus efficace. Et puis Jérusalem, la ville belle qui descend d'en haut. Et au sein de laquelle aura lieu la Pentecôte. Donc il y a un trait commun entre ces trois apocalypticiens. Donc on est dans un temps de combat et de crise. Une guerre qui paraît extérieure, il y a beaucoup de chars, beaucoup de chevaux, beaucoup de... Voilà. Mais en son fond, elle est spirituelle. Entre celui qui est, qui était et qui vient, mais qui tient le glaive à deux tranchants, contre les forces du mal qui oppriment ceux qui aiment Dieu, les fidèles du Dieu vivant. Ils seront égorgés, mais ils sont de nouveau debout. L'issue est victorieuse, elle est inéluctable. Car Dieu, le Créateur, est infiniment bon et puissant. C'est lui qui a créé en séparant la lumière et les ténèbres, dès le livre de la Genèse. Eh bien, à l'autre bout de la Bible, la Genèse, eh bien, il va créer un monde nouveau en faisant disparaître l'ancien, dont le dragon voulait se sentir le maître. Le dragon, c'est l'antique serpent. Il a beaucoup grossi entre la Genèse et l'Apocalypse. Celui qui séduit Adam et Ève. Il veut, au fond, attirer l'humanité, nous, dans une lutte insensée contre le Créateur. Pour dire que c'est le péché de l'ange. Le péché de l'ange rebelle, eh bien, c'est alors qu'ils sont créés comme nous. C'est d'ailleurs ce que l'ange dit à Jean à la fin, je ne m'adore pas, je suis moi aussi créé par Dieu. Ils veulent entraîner l'homme dans une histoire d'anti-amour, finalement. Anti-Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont précipités. Donc, le premier point, ce que je voulais dire, au fond, quelle est la structure et le message principal de cet Apocalypse, c'est « ne crains pas ». Ne crains pas. Voici ce que dit l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1er, un très beau passage, 1, verset 17. Jean est pétrifié devant le Fils de l'homme, tellement il est magnifique, beau, puissant. À sa vue, je tombai comme mort à ses pieds, mais il posa sur moi sa droite et dit « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant, je fus mort et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles, je tiens les clés de la mort et de l'Hadès, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite ». Et il va écrire en particulier pour les sept églises. Donc vous voyez que l'Apocalypse n'est pas d'abord une espèce de spéculation sur les derniers temps, c'est une lettre écrite aux sept églises. Et nous verrons peut-être à la fin, qu'est-ce que l'Esprit nous écrit aujourd'hui. Nous sommes en partie aussi des églises. Et en gros, je dirais que la dernière lettre qu'on a reçue, c'est peut-être Vatican II. On n'a peut-être pas assez creusé, 50 ans après, ce que l'Esprit dit aux églises à travers Vatican II. Voilà le premier point. Et nous allons nous arrêter un peu, justement, pour passer à l'audiovisuel. Parce que l'Apocalypse, c'est tellement une fresque tellement extraordinaire qu'il ne faut pas seulement des paroles, comme je le dis là, mais il faut aussi des images. Alors le film que nous allons voir, c'est de Michel Farin, un jésuite qui a beaucoup travaillé pour le jour du Seigneur. C'est à partir de la tapisserie d'Angers, du 14e siècle. Voilà, alors je vous laisse regarder ce film.
Et quant à nous, chers amis auditeurs, nous allons écouter Bernard Mendibourg nous raconter en quelque sorte ce que le public de Castanet avait pu voir ce jour-là. Nous écouterons également quelques extraits de la vidéo, puis notre conférencier reprendra le fil de sa présentation.
Un signe grandiose apparut au ciel. Puis, un second signe apparut au ciel. Un énorme dragon rouge feu.
Ce film, en plusieurs épisodes, reprend certains thèmes de l'Apocalypse qui se trouvent sur la tapisserie. Par exemple, l'épée, puisque le juge, le Christ qui revient à la fin des temps, a une épée entre les dents, ça veut dire il est le juge, un peu comme Salomon. Il est ensuite il y a l'enfant, montrer que dans l'Apocalypse, à un moment, il y a la femme qui est enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, qui met au monde un enfant qui représente le Christ et qui est enlevé auprès de Dieu parce que l'ennemi, le dragon, veut le manger, mais il restera toujours vivant parmi nous. Voilà. Ensuite, il y a un autre épisode qui s'appelle la ville, puisque finalement, Jérusalem et Babylone, ce sont les deux villes symboliques, plus que symboliques, pour Jérusalem, qui existe toujours. Les deux villes symboliques, l'une, disons, le principe de l'aliénation, du mal, du mensonge, et de l'autre, Jérusalem, la cité céleste qui descend du ciel, l'épouse qui vient de Dieu, quoi. Une qui veut monter jusqu'au ciel, la tour de Babel, Babylone, et l'autre qui veut descendre, qui descend parmi nous comme une fiancée auprès de son époux. Voilà.
Et vous avez fondé votre conférence à partir de cette vidéo, ou c'est un élément pour étayer votre propos ?
Oui, c'est pour étayer mon propos, parce que je l'avais vue il y a très longtemps, elle m'a toujours beaucoup impressionné, cette vidéo. Parce que d'abord, la tapisserie d'Angers est extraordinaire. J'étais la voir avec des personnes quand j'étais en Bretagne, dans un centre spirituel. Et pourquoi ? Parce que cette tapisserie reprend de façon assez littérale le livre de l'Apocalypse. Et donc, je l'illustre parce que je trouve que c'est pas mal, puisque l'Apocalypse, c'est surtout des visions, qu'on n'entende pas seulement des paroles au cours de la conférence, mais qu'on voit des images. Et je pense que ça peut toucher. Alors c'est assez original parce que Michel Farin, qui a fait beaucoup de films à la télé pour Le Jour du Seigneur, vous verrez dans le film, on voit les appareils de prise de vision, par exemple. Il discute avec le lecteur, qui est un professionnel, qui n'est pas toujours d'accord avec le livre de l'Apocalypse. Est-ce que Dieu, par exemple, n'est pas un manipulateur, au fond ? Mais non, dit Michel Farin. Il le serait s'il était sur le même plan que le dragon. Mais justement, il est faible, puisqu'il laisse son fils mourir sur la croix, mais il est fort, puisqu'il va ressusciter. Donc on voit aussi les visiteurs qui visitent la tapisserie d'Angers, des enfants en particulier, d'où le titre de l'une des séquences, l'enfant, mais aussi des personnes qui sont le visage très grave. Ça m'a beaucoup frappé en regardant cet apocalypse. Bon, certains peut-être trouvent que c'est un monde complètement étrange, mais tous sont touchés.
Riposta avec ses anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable, ou le Satan comme on l'appelle, on le jeta sur la terre. Se voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme, la mère de l'enfant. Mais elle reçut les deux ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au refuge, où, loin du serpent, elle doit être nourrie un temps, et des temps, et la moitié d'un temps. Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme. Ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve vomi par la gueule du dragon. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Et le dragon s'arrêta sur le bord de la mer. Alors, je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. La bête que je vis ressemblait à une panthère, avec les pattes comme celles d'un ours et la gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui transmit sa puissance et son trône et un pouvoir immense. on se prosterna devant le dragon et l'on se prosterna devant la bête en disant « Qui égale la bête et qui peut lutter contre elle ?» On lui donna de blasphémer et de mener campagne contre les saints et de les vaincre. On lui donna pouvoir sur toute race, peuple, langue ou nation. Et ils l'adoreront, tous les habitants de la terre dont le nom ne se trouve pas écrit dès l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Celui qui a des oreilles, qu'il entende.
Une vidéo qui est là pour provoquer des interrogations et un questionnement.
Oui, et pour illustrer les topos que je ferai, pour illustrer le livre de l'Apocalypse. Alors, toute l'apocalyptique n'est pas représentée par l'Apocalypse de Saint Jean dans la Bible. Il y a aussi Jésus qui fait un discours eschatologique extraordinaire dans Saint Matthieu, où il dit que la fin des temps, ça sera d'abord le retour du Fils de l'homme en gloire. Mais l'Apocalypse est tellement splendide, et tellement des images luxuriantes que ça vaut la peine, je crois, de les regarder.
Quelle est l'origine de cette tapisserie d'Angers ?
Alors, elle a été faite au XIVe siècle par un nommé Nicolas Bataille de Bruges et un autre. Donc, ça a dû durer 10, 15 ou 20 ans, la fabrication de cette tapisserie moyenâgeuse. Je crois que elle est à Angers, dans le château d'Angers. Et il y a aussi une autre, me semble-t-il, Apocalypse, mais dans moderne. Comment il s'appelle déjà ? L'Ursa. L'Ursa qui a fait aussi, mais c'est dans un autre endroit de la ville. Voilà. Et je crois que l'Apocalypse du Moyen-Âge ne départ pas par rapport à celle de l'Ursa.
Donc elle est à la fois l'expression d'une culture d'un moment, mais elle s'inscrit dans un questionnement de toujours.
Exactement, de toujours. Puis la culture d'un moment, donc, c'est la culture en un sens du genre apocalyptique de la Bible, mais qui commence avant Saint Jean. Par exemple, le livre de Daniel, le livre de Jérémie, l'apocalyptique, au fond, l'apocalypse de Jésus-Christ, j'insisterai là-dessus. Ce n'est pas l'apocalypse en général, du genre apocalypse now, la guerre du Vietnam, où on retient surtout la catastrophe dans le langage. Mais c'est l'apocalypse de Jésus-Christ, donc c'est lui qui se révèle, et c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas d'abord la terreur ou les signes effrayants qui prédominent. Jésus le dit dans l'évangile, dès que vous verrez cela, vous verrez un peu comme le figuier qui bourgeonne, vous saurez que l'été est proche. Voilà, l'idée principale que je veux donner, c'est que c'est une bonne nouvelle. C'est rempli d'espérance, l'Apocalypse de Jésus-Christ. Je crois que c'est bien d'être dépaysé. Donc ça, c'est le livre de Saint Jean, l'Apocalypse. Mais il y a quelqu'un qui a été plus qu'un apocalypticien, plus que Jérémie, plus que Daniel, plus que Jean, c'est Jésus. Si vous lisez le discours eschatologique de Jésus dans Saint Matthieu ou dans Saint Luc, bien c'est Jésus lui-même. Les disciples disent « Quand c'est que va venir le temps de la fin ?» Parce que Jésus leur parlait de la ruine du temple. Et ils trouvaient que le temple était magnifique. Oui. Eh bien, Jésus va faire une longue révélation sur les temps de la fin. En disant d'abord qu'il ne faut pas s'inquiéter. Bien sûr, c'est effrayant, les cataclysmes, la fin d'un temps, la fin d'un monde. Mais la vraie fin, c'est le grand signe. Ce n'est plus le signe de la femme et de l'enfant. C'est l'enfant qui est devenu grand, on pourrait dire, c'est Jésus lui-même. C'est le Fils de l'homme qui apparaît dans sa gloire, devant toutes les nations. Donc je crois que c'est Jésus lui-même qui nous dit, qui nous parle du temps de la fin, en nous disant, ne vous inquiétez pas de savoir la date, les moments, c'est comme l'éclair qui part de l'Orient à l'Occident, vous le verrez immédiatement. Et lorsque les pharisiens demandent à Jésus « Quand c'est que vient la fin des temps ?» Eh bien, ils disent, mais ne passez pas votre temps à scruter les étoiles ou même l'écriture sainte. Hein. Le royaume des cieux est parmi vous. C'est Jésus, le royaume des cieux, en fait. Il est parmi, mais ils ne s'en rendent pas compte, les juifs, les pharisiens, ils ne s'en rendent pas compte. Alors c'est ce même Jésus, mort et ressuscité, qui à la fin des temps reviendra. Le signe du Fils de l'homme, il reprend le mot au prophète Daniel. Jésus s'est souvent nommé comme le Fils de l'homme. Il est vraiment le Fils de l'homme. Voilà le signe de la fin des temps. Mais là aussi, loin d'insister uniquement sur la ruine de Jérusalem ou la fin des temps catastrophique, les étoiles qui tombent du ciel qui s'obscurcit, la mer et le fracas, Jésus dit, eh bien, quand cela arrivera, redressez la tête, car eh bien, votre temps de la délivrance est arrivé. Donc, vous voyez que là aussi, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, ça passe par des bouleversements énormes. Alors ça, je ne sais pas comment ça se passera. Peut-être que les savants vous en ont parlé déjà dans les conférences précédentes. Aux dernières nouvelles, la Terre a 15 milliards d'années. Bon, mais ce que Jésus veut dire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le compute, ce n'est pas les dates. C'est, ne vous effrayez pas, regardez le figuier, dit-il. Quand vous voyez qu'il bourgeonne, vous dites, l'été est proche. Alors voilà ce que je voulais retenir dans mon exposé, c'est qu'au fond, le dernier mot de Jésus sur la fin des temps n'est pas les cataclysmes cosmiques, c'est une image, on dirait presque écologique, celle du figuier, la douceur du figuier. Voilà. Donc c'est ça, je crois, que nous devons retenir. C'est qu'à travers tous les bouleversements du monde, les guerres, etc., il dit il y aura des guerres, c'est vrai, mais ce ne sera pas encore la fin. La fin, c'est vraiment l'apparition du Fils de l'homme, sa manifestation. Des guerres, il y en a eu beaucoup. Et c'est vrai que dans la structure de l'Apocalypse, il y a toujours un peuple martyr, que ce soit du temps de Jérémie, ou bien des Égyptiens, Nabucodonosor, Daniel, les Grecs, et Rome, les martyrs. Un peuple martyr. Mais c'est vrai que ce n'est pas n'importe quelle guerre, en un sens. Je me rappelle le père Beauchamp, un grand exégète, un jésuite qui est décédé il y a quelques années. Il était parti en Chine, et puis il est revenu dans les années 50 à cause du maoïsme. Bon. Mais il s'était demandé, lui, pourtant un exégète savant, il dit, mais est-ce que ce n'est pas le signe de la fin des temps, de voir un peuple qui va être persécuté, il y avait quelques millions de chrétiens. Bon, ce n'était pas encore la fin des temps. L'histoire continue. Donc, mais ce qui veut dire, c'est que Jésus nous dit, ne faites pas trop de calculs. Ce qui compte, c'est le royaume des cieux qui est parmi vous, il reviendra. Ne soyez pas dans la crainte, dans l'attente, inquiète. Bien sûr, veillez. Jésus le dit souvent, veillez, veillez et priez. Il dit l'histoire de Lot, vous rappelez du temps de Lot, on mangeait, on buvait, on se mariait, et puis le temps du cataclysme est venu, personne ne s'en doutait, c'est vrai. Il faut être vigilant, mais sans angoisse. Voilà. Et alors je pense, et là-dessus que je vais terminer, quels sont les signes des temps aujourd'hui? Ils sont peut-être davantage du côté de ce figuier qui bourgeonne, plutôt que de la crainte dont nous parlaient les sectes, l'an 1000, etc., de la fin du monde, etc. Il est plutôt de ce côté-là, de façon très discrète. Et c'est là que Vatican II, peut-être, est pour nous un signe des temps. Jean a parlé aux sept églises, c'est incarné son message. Vatican II nous parle aussi, bien qu'il ait déjà 50 ans, mais on voit bien qu'il y a des difficultés, il y a des sensibilités différentes. Mais il nous invite à quoi? Alors, je verrai deux signes des temps dans Vatican II, et vous pourrez en discuter. Peut-être vous ne serez pas tout à fait d'accord. Le premier, je dirais, c'est que à l'intérieur de l'Église, il y a un appel à, là aussi, un adoucissement des relations. L'Église s'est trop considérée à un moment comme presque... Elle a judaïsé un peu. On est les meilleurs, on remplace Israël, etc. Donc il y avait la hiérarchie et les fidèles, le troupeau, l'Église pyramidale. Eh bien, aujourd'hui, si on lit Vatican II avec le concept de peuple de Dieu, bien sûr, la distinction ministre ordonné et fidèles restent, mais nous sommes tous d'abord des fidèles du Christ. Les 144 000 dont parle l'Apocalypse. Donc peut-être un appel à une évangélisation des relations à l'intérieur de l'Église. Un peu comme Jésus qui dit en lavant les pieds à ses disciples, Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, je le suis, et pourtant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc un appel au ministre, sans doute, à changer leurs relations, et de l'autre part, aux fidèles, à prendre peut-être plus d'initiatives pour que la mission, le peuple de Dieu, eh bien, s'agrandisse. Donc voyez, à l'intérieur de l'Église, ça peut être aussi un enseignement pour le reste de la société, voir que dans l'Église, eh bien, on évolue. Hein. Ce n'est pas la démocratie tout à fait l'Église, hein. Ce n'est pas la monarchie non plus. Laos, en grec, c'est le peuple chrétien, c'est le peuple saint. Laïque, nous sommes tous laïcs de ce côté-là. Laos, c'est le peuple saint, le peuple de Dieu. Hein. Voilà. Donc l'Église a une position originale, ni une monarchie, ce que peut-être elle a trop été à certaines époques, ni une simple démocratie, hein, mais un peuple saint. Donc à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, c'est la relation au monde qui, à Vatican II, a changé. L'Église dans le monde de ce temps, je vous donnerai tout à l'heure un petit papier là-dessus, l'Église dans le monde de ce temps, l'Église se réconcilie en un sens avec le monde. Non pas avec ce qui, dans le monde, s'oppose à l'amour et à Dieu, ça c'est le dragon et sa descendance, hein, mais voilà, elle reconnaît que dans les religions, il y a un appel de Dieu, que nous avons à respecter avec beaucoup de patience, que ce soit dans l'islam, le concile distingue l'islam et les musulmans, c'est pas tout à fait pareil, que ce soit dans les religions non chrétiennes comme l'hindouisme, que ce soit dans le judaïsme d'abord en premier. L'Église s'est adoucie, je dirais, un peu comme le figuier qui bourgeonne, c'est peut-être un signe des temps aussi, hein. On a été quand même dur dans l'Église, on a été un peu triomphaliste, oui. Un signe des temps. Donc le changement par rapport au monde. Et finalement, qu'est-ce qui nous unit dans ce 21e siècle? C'est peut-être, pas tout seul, mais avec d'autres, peut-être de pensées, de conceptions différentes, comment construire un monde plus juste, le monde de la justice. Car si Dieu, dans l'Apocalypse, fait disparaître la création entière, c'est pas qu'elle était mauvaise en soi, Dieu a tout créé bon, mais le péché a fait qu'elle s'est endurcie. Donc le totalitarisme, l'athéisme d'un côté disparaît, et puis de l'autre côté, un monde plus juste va naître, la création nouvelle. Donc la dernière image, on pourrait dire, de l'Apocalypse, c'est Matthieu 25, Jésus qui, à la fin des temps, qui vient avec ses anges, et qui dit, ben voilà, j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais prisonnier. C'est-à-dire que Jésus s'identifie avec chacun des hommes et des plus petits. Et là, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière à la charité. C'est peut-être notre tâche du XXIe siècle en tant que chrétien. Et c'est un signe. Nous ne sommes pas à la fin des temps. Dieu seul la connaît. Même pas le Fils, dit saint Marc. Seul le Père. C'était la tentation des disciples. Même à l'ascension, on croyait qu'ils étaient convertis. Ils disaient, quand c'est que vient le royaume des cieux? Et Jésus leur dit, eh bien, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les mouvements. Ils imaginaient le royaume des cieux comme une restauration d'Israël. Non, c'est quelque chose de plus neuf, entièrement nouveau. Voilà, donc, si vous voulez, dans le temps qui vient, vous pourriez réfléchir, je ne sais pas comment ça se passe, en petit groupe peut-être, à deux questions très simples. En quoi le livre de l'Apocalypse vous conforte dans votre foi, dans votre espérance et dans votre charité? En quoi le livre de l'Apocalypse vous conforte dans votre foi, votre espérance et votre charité? Et la deuxième question, comment voyez-vous les signes des temps aujourd'hui? Moi, je vous ai donné quelques exemples à partir de Vatican II, mais peut-être que vous pouviez en trouver d'autres. C'est tout petit. Vous voyez le figuier quand il bourgeonne, on ne le voit pas beaucoup. On voit beaucoup plus le soleil qui tombe, les étoiles qui s'écrasent et tout ça, le fracas de la mer, les images apocalyptiques. Mais le figuier qui bourgeonne, ça veut dire que l'été approche, que le règne de Dieu approche. Peut-être qu'il y a des signes à trouver de ce côté-là. Merci.